Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 18 décembre. La qualité de l'air s'améliore dans la région et notamment dans la métropole de Lyon. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Le déploiement de la zone à faible émission franchit une nouvelle étape le 1er janvier avec l'interdiction des véhicules critères 3. Des dérogations pourront être demandées par les travailleurs en horaires décalés. Le gaz vert, comment ça marche? Quelques éléments de réponse avec le reportage de Charles-Élie Gouillet dans cette édition. L'Académie de l'Organisation Mondiale de la Santé, inaugurée hier par Emmanuel Macron. Et puis nous parlerons également de sport, en particulier de foot et de basket à la fin de cette édition.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'Observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes publie sa dernière étude baptisée Portrait de territoire 2019-2023. La qualité de l'air s'améliore dans la région et notamment sur la métropole de Lyon, mais les concentrations de certains polluants, notamment les particules fines, sont toujours trop élevées au regard des recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Sur la métropole, on constate une vraie baisse du dioxyde d'azote, 23% en 4 ans, en lien avec les actions sur les changements de mobilité comme les transports en commun, les modes actifs ou encore la zone à faible émission. Le déploiement de la ZFE qui franchit une nouvelle étape au 1er janvier avec l'interdiction des véhicules critères 3. Plus de 100 000 véhicules sont concernés. Bruno Bernard annonce la prise imminente d'un arrêté pour permettre aux propriétaires d'un véhicule critère 3 travaillant en horaire décalé d'obtenir une attestation fournie par leur employeur. Cette dérogation sera valable un an et renouvelable une fois. Le gaz vert prend de l'ampleur et se profile comme l'un des meilleurs moyens pour réduire l'empreinte carbone en valorisant les déchets agricoles. En France, GRDF, le principal distributeur de gaz, connecte les unités de méthanisation produisant du biogaz aux logements, entreprises et aux bâtiments publics. La question est de savoir comment il est fabriqué et qui sont les acteurs engagés dans cette révolution énergétique. Des éléments de réponse avec Charles-Élie Gouillet.
711, c'est le nombre de méthaniseurs en France servant à transformer les déchets des agriculteurs en gaz renouvelable. Cela représente 2 millions de logements chauffés, soit l'impact de 2 centrales nucléaires. À Viria, dans le département de l'Ain, l'unité Junion Biogaz travaille main dans la main avec 5 fermes locales et le réseau GRDF pour produire 7,8 gigawattheures par an. Le responsable de site, Sébastien Bertillot, nous a ouvert les portes afin d'expliquer le processus.
La méthanisation, c'est de faire dégrader de la matière organique en milieu anaérobique, sans présence d'oxygène, pour générer du biogaz et par la suite l'épurer et l'envoyer sur le réseau de GRDF pour remplacer le méthane d'origine fossile. Donc en type de matière, on peut avoir des lisiers, des fumiers, des cives, des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ce sont des matières d'origine agricole. Mais après, on peut avoir des déchets externes, comme des biodéchets ou des déchets d'origine agroalimentaire. Nous, notre rôle sur le site de Junion Biogaz, c'est de produire du biométhane d'origine française, donc de fabriquer le méthane pour l'injecter sur le réseau de GRDF.
Le réseau de distribution est alimenté 24 heures sur 24, tous les jours de l'année et en circuit court. Ce dispositif conquit de plus en plus d'acteurs locaux pour une consommation au gaz vert, comme Patrick Mathias, maire de Châtillon-sur-Chalaronne, une petite ville rurale de 5000 habitants située aussi dans l'Ain.
Le SIOA nous a fait une proposition entre du gaz vert et du gaz non vert. Il nous a paru évident que c'était le gaz vert sur lequel il fallait aller, mais ça n'a même pas été une question, c'était une évidence par rapport à l'environnement châtillonnais. Pour pas aller sur du gaz de pétrole ou autre gaz, c'est plus possible. Il faut vraiment commencer à réfléchir autrement. Ça permet de chauffer la totalité de nos bâtiments publics à Châtillon, c'est-à-dire gymnase, mairie, école. C'est une garantie aussi de soutenir l'agriculture locale. On parle de consommation locale, de cycle court, puisqu'on l'achète à un producteur, en l'occurrence dans le département de l'Ain, qui permet de consommer en local. Ça permet de sauvegarder le monde agricole, puisque le monde agricole en ce moment souffre. Si on peut, nous, collectivités, les accompagner, bah pourquoi pas? Certes, le gaz vert coûte un peu plus cher. Dans 15 ans, je pense qu'on pourra dire on a sauvé une partie du monde agricole. Effectivement, on aurait pu faire une économie à l'instant T, mais c'est une fausse économie. Il faut se projeter un petit peu plus loin. Et toutes les collectivités sont en train d'y réfléchir. Alors, on parle de gaz, mais ça peut être aussi d'autres énergies renouvelables, panneaux solaires.
Les entreprises sont également intéressées par l'utilisation de cette solution écologique pour leur activité. Au sein de la même commune indinoise, c'est le cas de la société Café Dagobert, une torréfaction engagée 100% biologique et équitable, certifiée Demeter. Nous avons pu rencontrer le directeur David Gobert, qui ajoute une touche verte à chaque grain de café.
La décision a été vite prise de dire, allez, on passe en biogaz. En termes de marketing, communication, l'investissement, il est cohérent, il est écologique. Mais après, on reste quand même une entreprise qui fait vraiment bien bien les choses, mais qui n'a pas honte de dire qu'on fait bien les choses. Payer un chauffage comme ça, c'est irrationnel en termes de rentabilité, parce que ce ne sera jamais rentable. On ne fait pas les choses pour qu'elles soient rentables, on fait les choses pour dire, c'est pas parce que ça coûte plus cher qu'il faut pas le faire. Si on le fait, c'est oui, en termes de marketing, c'est intéressant, en termes de communication aussi, mais c'est aussi qu'on est là pour faire de l'économie locale et protéger notre environnement. Et si on a une association aujourd'hui qui parle de tout ça, c'est pour dire c'est important de l'éduquer à nos enfants.
C'est aussi grâce au fait que ce soit biogaz que vous avez pu avoir du coup les labels, les certifications, etc.
Ça fait partie de la cohérence des choses, en fait. C'est pas que le biogaz, c'est aussi avoir des murs isolés en bois, c'est aussi avoir des entreprises en local, c'est aussi, en fait, c'est un tout.
Est-ce que d'être passé en gaz vert, ça a changé les méthodes de production ou pas du tout?
Rien du tout. Le fait de changer de lieu a plus modifié nos réglages de machines que de changer de gaz. Mais ça change l'empreinte carbone de manière colossale.
Agriculteurs, élus ou entreprises du département de l'Ain tissent donc ensemble une véritable boucle vertueuse pour la transition énergétique via le gaz vert. C'est un modèle que l'on retrouve désormais dans de nombreuses zones rurales à travers la France.
Merci Charles-Élie. L'Académie de l'Organisation Mondiale de Santé, inaugurée hier par Emmanuel Macron, décidée en 2019. L'Académie de l'Organisation Mondiale de la Santé avait été installée à Lyon en 2021, avant la construction de son campus au cœur du biodistrict de Gerland. Elle ambitionne de former 3 millions de personnes d'ici 2028 dans 172 pays, en présentiel et en distanciel. Emmanuel Macron a souligné combien était fondamentale la question des ressources humaines, alors qu'une pénurie de 10 millions de personnels de santé était annoncée d'ici 2030 dans toutes les régions du monde. Pour le président, l'Académie doit rester à la pointe des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle. Le président de la République a souhaité que les acteurs lyonnais et les meilleurs acteurs de l'IA soient associés au projet. Les urgences dentaires de l'hôpital Édouard Herriot changent de lieu pendant les fêtes. Elles sont transférées en effet à partir de lundi et jusqu'au samedi 4 janvier au centre de soins dentaires des Hospices Civils de Lyon, au 8 rue de l'Université dans le 7e. Les sports en football féminin, la Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais féminin a enregistré un 6e succès face à Wolfsburg 1-0 et termine l'année invaincue. En basket, en Euroleague, première victoire à l'extérieur pour l'ASVEL à Belgrade devant les 20 000 fans du Partizan. L'équipe villeurbanaise s'est enfin imposée hors de ses bases 82-79 après 7 défaites consécutives. Après le Clojouve à la Croix-Rousse de 46-83, l'ASVEL féminin a évolué dans le 8e arrondissement au gymnase Victor Grignère, puis à la salle Madobonnet depuis 2008. Mais le club des Lyonnes s'apprête à vivre un véritable tournant, son dernier match ce mercredi à 20h face à Vilnius, avant de déménager au Palais des Sports de Gerland à partir du mois de janvier 2021. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement pour une prochaine édition demain.